photo ici. Donc en fait, c'est pas des algues, on pourrait croire que c'est des algues, mais en fait c'est vraiment des herbes marines comme on a en terrestre. Donc elles font des graines, des fleurs, et des graines vraiment comme des fleurs sur Terre. Alors est-ce que vous savez pourquoi c'est important de préserver ces herbes marines? Vous avez une idée? Donc, en fait, yes, oui.
Pour avoir plus d'oxygène, vraiment.
Oui, c'est bien. Ça, c'est une des bonnes raisons. Parce que, donc, comme c'est des plantes, elles font la photosynthèse. Donc, effectivement, elles rejettent de l'oxygène. Oui.
On rend l'eau plus naturelle quand elle est polluée.
Oui, aussi, ça a une fonction d'absorption de la pollution aussi. Pas évidemment s'il y en a une grande quantité, mais un petit peu, effectivement, ça filtre l'eau, c'est vrai. Une autre question. Donc c'est bien déjà ce que vous avez dit. Donc ça donne de l'oxygène, water purification. Donc quand on a des cigrades, ça montre que l'eau est de bonne qualité. Et aussi, ce qui est très important, ça a une fonction de protection pour beaucoup de poissons. Donc, il y a beaucoup de poissons qui pondent leurs œufs dans les cigrasses. Donc là, tous les juvéniles, les bébés poissons naissent dans les cigrasses, enfin, certaines espèces. Et donc, c'est un milieu très, très protégé. Donc aussi, c'est une espèce, non seulement qui sert d'habitat, mais qui est directement, sont directement mangées par certains animaux, comme le dugong. Vous savez ce que c'est, un dugong?
Non.
Vous en avez un dans la salle, si vous cherchez bien.
Vous faites ça là?
Ça rapide.
À côté de vous, le chenet?
Oui, voilà. Donc, ça, c'est un bébé dugong. Évidemment, qu'on a trouvé mort sur la plage. Donc, il fait à peu près un mètre, donc il venait à peine de naître, c'est vraiment un bébé. Et les dugongs, ce sont des mammifères marins, comme les dauphins en fait. Donc en fait, ils ont des.
Sur quelle taille qu'ils sont adultes?
3-4 mètres.
Ah.
Et donc voilà, ils vivent comme des dauphins en fait, ils ont des poumons, ils ont besoin de remonter à la surface pour respirer. Et comme tous les mammifères, ils ont leur bébé dans leur ventre. C'est pas du tout comme les poissons. Oui.
Ils ont pas de pattes.
En fait, là, il y a des os comme des pattes, mais ça, c'est comme des nageoires, en fait. Merci. Là, il y a une photo là-bas, oui, si vous voulez voir. Ça fait comme des nageoires, mais qui leur servent plus à s'ancrer dans le sol, que bon, ils s'en servent pas tellement pour nager. Mais par contre, ils ont une queue, donc une nageoire dorsale très très puissante. Caudale, très puissante, ce qui leur permet de se propulser. Et vous pouvez les voir à la surface, en fait, ils montent pour respirer. Vous voyez, je vais vous montrer une photo après, voilà. Donc, ils viennent comme ça pour respirer, donc vous pouvez voir le nez qui sort, et parfois, ils font comme les dauphins aussi, ils sautent, mais pas très haut. En fait, on peut voir juste leur dos. Et comme on voit pas de nageoire dorsale ici, donc on a de grandes chances que ce soit un dugong. Mais par contre, si on voit que la queue qui sort, on peut croire que c'est un dauphin. Et là, vous voyez, il mange toutes ces cigrasses, ces herbes marines. Là, c'est sous l'eau, en fait, pour un petit premier temps, mais c'est sous l'eau. On voit tout le trajet où le dugong est passé.
Oui, parce qu'ils sont rares à Dubaï. Mais...
Donc, voilà, en fait, ils sont rares, en fait, partout dans le monde. Mais la plus grande population, c'est en Australie. Et là, nous, ici dans les UAE, on a la deuxième plus grande population au monde. Donc il y a à peu près 2000, 3000 individus. Oui.
Est-ce qu'ils peuvent rester hors de l'eau pour un certain temps ou pas?
Non, il reste juste quelques minutes pour respirer et après ils redescendent. Mais ils ont besoin de remonter à la surface toutes les 20 minutes à peu près. Voilà, donc c'est une espèce qui est, il n'y en reste plus beaucoup d'individus dans le monde, il y en a donc 10 000 à peu près en Australie, 2 000 ici, donc ça fait pas beaucoup, c'est pour ça que c'est une espèce menacée de disparition, donc il faut la protéger. Voilà, donc maximum 3, un peu plus, on a un peu plus. Sinon, risque de cigrasse, comme on a vu. On en a aussi le long de la côte est d'Afrique, mais très très peu. Donc en fait, les dugongs sont menacés parce que aussi leurs habitats sont menacés. Donc avec toutes les constructions que vous avez le long de la côte, malheureusement ça a un impact négatif sur les cigrasses. Donc on perd toutes ces grandes zones où il y avait beaucoup de cigrasses, elles sont toutes détruites. Ou alors avec l'augmentation de la température de l'eau, avec le réchauffement climatique, parfois on observe que les cigrasses sont brûlées. Par exemple, en été, là, l'eau est montée jusqu'à 39 degrés. Et comme elles vivent en eau peu profonde, c'est là où elles sont plus touchées. Et les dugongs sont aussi menacés parce qu'on en trouve souvent pris dans les filets des pêcheurs, malheureusement. Et aussi, les bateaux que vous voyez là, qui conduisent très très vite, parfois ils peuvent aussi percuter les dugongs. On en a trouvé mort à cause de ça aussi. Donc, un autre type d'habitat. On a beaucoup dans le golfe de grandes étendues de sable, mais on peut croire qu'il n'y a rien, mais en fait, c'est un très bon habitat pour le camouflage. Donc, si vous faites attention, en fait, sous le sable, il y a beaucoup, beaucoup d'animaux, et notamment des raies. Donc, faites attention quand vous baignez, faites comme ça avec votre main, et la raie va partir. Parce qu'il y a certaines raies, je ne sais pas si vous savez, qui ont une queue avec un piquant, des stingrays. Et il y a du venin dedans. Donc si vous mettez votre pied dessus, ça peut vous empoisonner. Mais bon, vous n'allez pas à mourir, hein, mais juste, il faudra vite aller chez le docteur. Donc il y a beaucoup de sèches qui vivent, des mollusques, des crabes. Voilà. Donc les mangroves, un autre type d'habitat qu'on a dans le golfe. Vous savez ce que c'est maintenant. Vous avez peut-être vu en cours et le journaliste vous en a parlé. Donc en fait, les mangroves, ce sont des grandes forêts, mais qui vivent dans l'eau de mer, en fait. Donc, dans les Émirats, on a des conditions tellement extrêmes, des températures qui sont de l'eau qui sont très froides, enfin 18 degrés en hiver jusqu'à des températures très 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 élevées en été. Donc du coup, à cause de ça, on a une seule espèce qui peut pousser, qui s'appelle Avicennia marina, c'est celle-là. Donc c'est celle que vous allez planter après. Qui s'est adapté à ces conditions extrêmes. Des conditions aussi extrêmes de salinité. L'eau est très très salée ici. On a des sols instables, c'est surtout du mud. Donc c'est pour ça que les mangroves ont des racines qui s'étendent en profondeur et aussi en largeur pour bien tenir le sol. Donc il faut savoir que les mangroves, elles préféreraient pousser dans l'eau douce en fait. Mais celle-là, elle s'est adaptée à toutes ces conditions d'eau de mer extrêmes. Donc on peut avoir cette espèce qui peut grandir jusqu'à 5 mètres de haut, donc c'est vraiment comme des forêts, qui font aussi des fruits, des fleurs et des fruits. Donc la plus grande mangrove se trouve à Corcalba, c'est vers Fujairah, dans les UAE. C'est très joli. Donc pourquoi c'est important une mangrove?
Oui. Elle mesure combien de mètres la plus grande mangrove?
Enfin, en tout cas, en hauteur, hein, c'est 5 mètres maximum, mais en étendue, je ne sais pas exactement, mais c'est. Je ne sais pas sur peut-être. Vous savez,
c'est. Il y a plusieurs kilomètres.
Oui, plusieurs kilomètres. Hein, 6-7 kilomètres.
Oui, c'est très grand.
Donc la mangrove est très importante. Donc comme on a vu pour les cigrasses, mais là c'est encore plus un rôle d'absorption du CO2. Donc c'est à peu près 5 fois plus que des plantes, que des arbres qu'on a ici. Donc la mangrove absorbe beaucoup beaucoup le CO2. Donc grâce à ça, ça aide aussi à réduire le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'ici on recrée une mangrove, pour compenser un peu les dégâts. Donc ça, comme ça a un rôle de ça stabilise les sols, donc en fait ça réduit l'impact des cyclones, des tempêtes, ça a vraiment un rôle de protection de la côte. Aussi ça fixe la pollution, comme les cigarettes. Et ça permet donc de protéger la côte et aussi tous les récifs coralliens qui vivent à côté. Et surtout, c'est aussi un endroit où les bébés poissons se mettent, c'est très protégé. Donc ils développent ici avant d'aller vraiment dans l'eau plus profonde. Donc la mangrove ici est menacée, bon, elle est menacée un peu partout dans le monde pour toutes ces raisons et surtout dans les Émirats à cause des constructions humaines qui prennent le pas sur la mer, donc qui détruisent directement les mangroves et puis avec des impacts indirects avec toutes les oil spills. Donc là, même si ça absorbe la pollution, évidemment, ça ne peut pas prouver si grosse pollution. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Donc c'est notre réserve. Vous allez peut-être faire un petit relais, enfin, si l'eau est assez chaude. Mais là, elle est un peu froide, donc je ne sais pas. Et puis voilà, vous plantez les mangroves. Et là, c'est quelques années après, ça grandit comme ça. Et là, vous voyez toutes les racines qui sortent pour prendre l'oxygène dans l'air. Donc un quatrième habitat, les récifs coralliens. Vous avez déjà des réponses, mais est-ce que vous savez ce que c'est?
Des poissons?
Non.
Le milieu de vie.
Ah, le milieu de vie? Ah, pardon. Oui, c'est un bon milieu de vie pour les poissons. En effet. Donc en fait, par exemple, je vais vous montrer les photos. Là, vous avez les coraux qu'on appelle table coral. En fait, ils s'étendent comme ça, comme une table. Donc ce sont, en fait, c'est pas des plantes, ce sont des animaux qui vivent en colonie. Donc c'est des tout petits animaux qu'on appelle des polypes qui vivent en colonie et qui sécrètent un squelette calcaire. Donc c'est pour ça que là, c'est des coraux durs, ce qu'on appelle. Il y a tout un squelette calcaire. Mais c'est des animaux parce que ils se nourrissent. Ils vivent en symbiose avec une algue. Donc c'est-à-dire qu'ils s'échangent les nutriments, ils s'échangent beaucoup de choses. Donc là, les polypes peuvent attraper des minuscules poissons, du plancton. Et pour vivre, ces coraux, ils ont besoin de la lumière du soleil. C'est surtout pour faire vivre l'algue avec laquelle ils vivent en symbiose. Donc c'est pour ça qu'on les trouve en eau peu profonde, dans des températures qui sont en moyenne 28 degrés, mais là on se rend compte que dans le golfe, finalement, il s'adapte à des températures beaucoup plus importantes. Donc comme tu as dit, oui, c'est important parce que c'est aussi, comme on a vu pour les autres types d'habitats, mais là pour d'autres espèces de poissons, c'est une très bonne nurserie et un abri pour beaucoup de poissons, tous les poissons qu'on appelle les poissons de récif, qui vraiment dépendent de ces récifs coralliens pour vivre. Voilà, donc il y a certains poissons qui se nourrissent directement sur les coraux, comme les parrot fish, les poissons perroquets. Avec leurs dents, vous pouvez entendre sous l'eau, ça fait comme ça, et c'est quand ils se nourrissent. Voilà, donc ça c'est juste quelques exemples. Vous voyez tous ces poissons. Ça, c'est un sweetfish, des snappers, des carangues qui vraiment dépendent de ces coraux pour vivre parce qu'ils peuvent se nourrir tous les petits animaux autour. Ça, c'est d'autres coraux qu'on appelle les brain coral, qui ressemblent à des cerveaux en fait. Il y a à peu près 35 espèces de coraux dans les Émirats, côté golfe. Ça, c'est d'autres coraux ici, vous voyez qu'ils sont comme des doigts en fait. C'est pour ça qu'on les appelle finger-like coral. Vous voyez les angelfish. Tous les poissons très colorés en fait, finalement, on les retrouve autour des récifs coralliens. Donc, ils vivent tous ensemble, tous ces coraux. Donc, ça a plusieurs espèces. Ça, c'était un rocher qui est juste là, famille des baladies. Après qu'on ait transplanté des coraux, je vous explique après, on voit qu'il y a beaucoup de nouveaux des nouveaux coraux qui poussent partout. Donc juste rapidement, quelques poissons qui dépendent des coraux pour vivre. Vous avez les plongeurs majeurs, ça c'est les batiches, les cibrines, des butterfly fish, sweet lips, gobi, et les parrot fish, là celui dont je vous parlais. Et là, celui-là, avec son bec. Les sœurs de fiche. Bon. Et j'attire votre attention sur celui-là. Est-ce que vous le connaissez? Ce poisson?
Un thon?
Un thon? Non. Vous voyez?
D'accord.
Comment?
Non.
Peut-être que Daniel est. Comment c'est ton prénom?
Mon surnom c'est Chloé.
Ah oui, Chloé. Vous devez savoir parce que je pense que vous en avez parlé dans votre rapport. Donc ça c'est un mérou, c'est un mérou. Donc celui-là en particulier, il s'appelle Orange Spotted Grouper. Donc c'est une espèce en fait qui est surpêchée dans le golfe parce que c'est un mets très recherché dans le golfe. Donc tout le monde veut manger de ce mérou. Mais je ne sais pas si vous savez, les mérous. Tous les mérous en fait. Quand ils naissent, ils sont femelles et quand ils arrivent à la taille de à peu près 60-70 cm, ils deviennent des mâles. Donc ça se passe comme ça. Et là, comme ils sont surpêchés, on se rend compte que finalement, les pêcheurs pêchent des poissons de plus en plus petits. Donc malheureusement, ces poissons, c'est comme si ils vont rester toujours femelles parce que du coup, comme ils n'arrivent pas à atteindre la taille où ils vont devenir mâles, c'est un gros problème pour la reproduction de l'espèce, parce que s'il n'y a plus de mâles, évidemment, ils ne pourront pas féconder les œufs des femelles. Voilà, donc après, je pense que vous allez voir WWF, ils vont pouvoir vous expliquer beaucoup plus que moi sur toutes les espèces surpêchées, mais celui-là, c'est l'un des plus menacés en fait dans le golfe. Voilà. D'autres espèces de poissons qui, eux, vivent autour des récifs, mais qui peuvent aller un peu plus loin, en fait. Et qui sont aussi beaucoup pêchés par les pêcheurs ici, donc comme tous les jacks, trémalis, les empereurs, les kingfish. Voilà. C'est des poissons qui vivent en banc et qui sont recherchés aussi. Ça pour vous montrer un aperçu de l'espèce qu'on a dans le golfe. Il y a quelques espèces de requins, donc comme les requins à pointe noire, les requins de récif à pointe noire, donc ceux-là aussi vivent autour des récifs coralliens. Ils attendent comme ça pour se nourrir des poissons qui vivent dans les récifs. Ça c'est un bébé de bambou shark, donc le requin bambou. Et ça, vous connaissez celui-là? Oui. Vous l'avez peut-être vu à Atlantis, mais maintenant il a été relâché, heureusement. Donc ces poissons, ce requin-là, en tout cas, il n'est pas du tout dangereux, parce que vous savez, il se nourrit que de plancton. Avec sa bouche, il prend tout le plancton, il filtre, et donc il n'attaque pas du tout l'homme ou des grands. Oui.
Et ce poisson, enfin à pointe nord,
est-ce pas dangereux?
Si. Ceux-là, non, ils sont pas dangereux. Bon, ils se nourrissent de poissons, tout ça, ils mangent pas que du plancton, mais en tout cas, si vous plongez, moi j'en ai déjà vu plusieurs fois, mais c'est vraiment des poissons en fait. Ils sont un peu curieux, ils vont venir, mais ils vont pas du tout ça. Ils vont pas du tout venir s'attaquer à vous, hein, et ils sont comme n'importe quel autre poisson. Évidemment, si vous allez les attaquer, les chercher, là, ils vont peut-être vous mordre, c'est sûr. Dans le golfe, en tout cas, il n'y a pas du tout de requins blancs ou tous les requins dont on entend toutes les attaques dans le monde, il n'y en a pas ici.
Oui. Est-ce que le requin baleine, est-ce qu'il est en cas de danger?
Oui,
en voie de disparition.
Oui, il est en voie de disparition. C'est pareil, il n'en reste plus énormément dans le monde. Donc, Là, parfois, on en voit qui viennent se perdre un peu sur les côtes. Donc, ce qu'on a fait, nous, avec Major Ali, bon, moi, j'étais pas là à l'époque, mais on les aide, en fait, à sortir un peu de toutes ces... de l'onde du bac, parce qu'ils peuvent mourir à cause de tous les bateaux, toutes les constructions. Bon, il y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, oui, c'est une espèce menacée. Donc là, on a beaucoup de sea snakes, donc des serpents de mer. C'est pareil que les requins, en fait. Ils vont pas venir vous attaquer, mais si vous les cherchez, oui, ils peuvent vous rendre. Certains ont du venin, qui peut être très dangereux. Donc, juste, il faut les regarder. Voilà. Donc, ici, dans les UAE, on a trois espèces de tortues qui sont dans nos eaux. Donc, la tortue verte, la tortue imbriquée et la tortue kawan. Donc jusqu'à présent, on avait enregistré seulement les tortues imbriquées pondent leurs œufs dans les UAE. Mais là, récemment, nous, Yannidji, on a trouvé qu'il y a aussi la tortue verte qui pond ses œufs dans certaines îles des UAE. Donc c'est une grande découverte. Donc la tortue verte, elle se nourrit par exemple directement de sea grass. Bon là, elle est dans les coraux, mais elle se nourrit surtout de sea grass et d'algues. Ouais. Donc c'est la plus grande des tortues qu'on a ici. Elle mesure jusqu'à 122-130 cm. C'est une espèce qui est classée en danger, donc en danger de disparition. Mais celle-là, c'est la tortue imbriquée en français, elle est critically endangered. C'est-à-dire qu'il reste. Qu'elle est menacée parce que sa population décroît beaucoup chaque année. Donc là, dans les UAE, elle était menacée parce que il y a beaucoup d'émiratis en fait qui volent les œufs. Quand la tortue vient prendre ses œufs sur les plages, ils prennent les œufs pour les manger. Donc c'est sûr que s'ils prennent tous les œufs, la tortue ne peut plus se reproduire normalement.
Non,
c'est beaucoup plus gros. Je ne sais pas si j'ai une photo. Bon. Non, c'est des œufs gros comme ça. À peu près. Vous avez vu dans la vidéo peut-être. Donc une tortue pond à peu près 100 œufs par nid. Donc là, sur nos côtes ici, en fait, à Dubaï, il y avait pas mal d'endroits où les tortues venaient pondre leurs œufs, mais avec tous les développements, malheureusement, il n'y a plus de plages qui sont bien pour les tortues, pour venir pondre leurs œufs. Donc du coup, on se rend compte, par exemple, l'année dernière, il y en a beaucoup qui sont venues sur notre plage ici, parce que c'est préservé, il n'y a pas de construction ici. Donc elles sont tranquilles, elles peuvent venir pondre leurs œufs. Donc nous, on vérifie tout ça, on mesure la taille du nid, on compte les œufs. On regarde en combien de temps les œufs vont éclore. C'est une partie de notre travail. Donc là, vous voyez une petite tortue qui vient de naître et qui fait son chemin pour retourner dans la mer. Voilà, donc ces tortues-là, elles ont besoin des récifs coralliens pour vivre. C'est pour ça qu'elles sont menacées aussi, avec toute la destruction des récifs coralliens. Elles se nourrissent sur les coraux, les éponges. Donc, dans les UAE, on a aussi des dauphins. Donc, par exemple, comme celui-là, qui est en français le grand dauphin, c'est le plus commun, c'est Beaver en fait, celui qu'on voit dans les aquariums. Donc, bon, évidemment, il ne faut pas les mettre en captivité, tous ces dauphins, mais. Donc, celui-là, c'est le plus grand qu'on a, il fait à peu près 4 mètres. Il est très joueur, donc si vous êtes en bateau, il va venir à côté de vous, il va jouer. Voilà, on a aussi le.
Pour le voir. Le dauphin, pour le voir.
Non, c'est. Pour le voir, il faut vraiment être en bateau, et puis faut que tu attendes, et peut-être qu'il va venir. Mais là, c'est possible que vous envoyez au loin, vous pourrez voir quand il va. Mais là, bon, c'est pas prévu, hein. C'est vraiment par chance si vous le voyez. Donc on a aussi le long des côtes le Indo-Pacifique humpback dolphin, donc le dauphin à bosse, qui vit beaucoup plus près des côtes que le dauphin, le grand dauphin. Donc celui-là vous pouvez le reconnaître parce qu'il a une bosse ici. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle dauphin à bosse en fait. Et qui est aussi menacé malheureusement avec tous les développements, puisque comme il a besoin de vivre près des côtes mais avec un habitat en bonne santé, et que là toutes les constructions, toute la filtration dans l'eau qui détruit tous les habitats, là c'est bien passé. Voilà, donc il est menacé. Aussi, oui, une des menaces sur ces dauphins, c'est que beaucoup sont pris dans les filets des pêcheurs. Donc on retrouve parfois des dauphins ici et sur toute la côte qui sont en fait morts parce qu'ils ont été pris par les filets, ils ne peuvent plus remonter à la surface pour respirer. Donc là, les pêcheurs sont en train de voir, il y a toutes des études qui sont faites sur des filets en fait qui pourraient prendre les poissons mais laisser échapper les tortues et les dauphins. Pour les tortues aussi, c'est une grande menace. Ah oui, je vous ai pas montré avant. Ah non, ça. Donc on a aussi dans les UAE une population de cormorants de Socotra, c'est cet oiseau, dans une des îles qu'on étudie nous autour de Sir Banias Island, c'est le premier à Abu Dhabi, et c'est la plus grande colonie qui niche en fait dans le monde ici. Donc c'est pour ça que on va essayer de la protéger parce que donc c'est le seul endroit maintenant où on peut trouver ces socotras de cormorants qui pondent leurs œufs. Et ils sont très fragiles parce que si un bateau qui passe ou du monde qui passe, ils vont s'enfuir pendant qu'ils sont en train de pondre leurs œufs. Malheureusement, il y a des mouettes qui attendent. Là, vous voyez une mouette avec son œuf dans la bouche. Donc elles sont toutes là, elles attendent et elles volent les œufs. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas du tout les perturber pour qu'ils restent sur leurs œufs. Bon, il y a aussi des locaux, des Émiratis, pareil, qui viennent et qui prennent les œufs pour les manger. Donc nous, c'est un de nos travaux qu'on va essayer de faire, d'essayer de protéger cette île pour préserver cette espèce qui est aussi en voie de disparition. Là, vous voyez, c'est des bébés cormorants qui sont déjà grands, mais ils sont tout blancs. Donc là, oui, on a, pour vous donner une idée, la colonie, elle fait à peu près 14 000 oiseaux. Je vais y aller justement cet après-midi. Alors, un des travaux qu'on fait chez ILJ, ça vous reconnaissez, c'est le PALM, donc c'est juste là, le PALM Jebel Ali. Et Waterfront, c'est là où on est. On a plusieurs stations où on enregistre la qualité de l'eau, et quand il y a des, donc comme ça on peut vérifier quand il y a des problèmes ou pas, et on peut donner des conseils pour l'AQIL qui gère ses palmes en fait, qui a construit les palmes. On leur donne des conseils sur quoi faire pour compenser les impacts. Par exemple, ici il y avait beaucoup de mollusques qu'on appelle des palm clams. Donc c'est un mollusque comme une énorme moule en fait, une grande moule. Il y en avait plein ici, mais malheureusement quand ils ont construit ça, il n'y avait plus assez de circulation d'eau et toutes les fantômes ont été tuées en fait. Ce qu'on fait aussi, on essaye de surveiller. Donc avant, il y avait beaucoup de récifs coralliens ici. Ils ont construit ça, ça a tout détruit. Mais maintenant, on voit qu'il y a un changement d'habitat et il y a des seagrasses en fait tout à l'intérieur du PALM qui poussent, surtout ici. Donc nous, ce qu'on fait, on a des transects comme ça et on va plonger et on enregistre toutes les seagrasses. On fait une étude là-dessus avec tous les mollusques qui vivent dans les seagrasses. Voilà, c'est ça. Donc là on a trois espèces. Donc c'est, en un sens, c'est bien, enfin, c'est pas bien parce qu'on a perdu tous les coraux, mais il y a un changement d'habitat. Donc s'il y a des seagrasses, on voit que c'est important aussi d'avoir des seagrasses. Donc peut-être qu'il y aura des tortues vertes qui vont venir, peut-être des dugongs, on ne sait jamais. Et on a enregistré une nouvelle espèce de seagrasse qui n'était pas là avant, celle-ci. Voilà, bon, c'est le genre d'études qu'on peut faire. Comme Edouard Lee vous a expliqué, on fait beaucoup En fait, on enlève toutes les algues. On a un gros problème parce que la pollution, tous les déversements en fait, sur la côte. Donc, il y a beaucoup de nitrate dans l'eau et malheureusement, ça favorise le développement de toutes ces algues vertes. Et ça étouffe l'eau, en fait. Ça fait le phénomène de tropisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en tout cas, toutes ces algues qui pullulent, ça prend tout l'oxygène et il n'y a plus assez d'oxygène dissous pour les poissons. Donc nous, on enlève tout ça. Par exemple, oui, je vais vérifier. En 2009, en tout, on a vendu 60 tonnes, donc c'est beaucoup. On enlève on a une équipe aussi qui enlève les déchets le long des côtes, donc les déchets sur les plages et aussi dans l'eau. Par exemple, là, en 2009, on a ramassé 43 tonnes de déchets. On se rend compte que les déchets, surtout, c'est surtout du bois, c'est des restes en fait de toutes les constructions. Donc au lieu de recycler ça, malheureusement, ils mettent tout dans la mer, tout sur les côtes. Il y a beaucoup énormément de plastique. Donc ça, c'est très néfaste, le plastique. Même si là, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est tellement léger que finalement, d'avoir presque 2 tonnes de plastique, c'est énorme, en fait. Aussi, malheureusement, les miracles, pas que d'ailleurs, mais ils mettent tout leur plastique. Et vous savez que, par exemple, les tortues, si elles voient un sac plastique... Elle croit que c'est une méduse, donc elle va les manger et elle s'étouffe. On a ce problème avec les chameaux aussi, les dromadaires. Donc ils peuvent manger du plastique et s'étouffer. Donc en fait, comme ça, en triant les déchets, on peut voir quelles sont les sources de déchets et après faire des actions auprès de ceux qui polluent finalement. Voilà, donc ça c'est ce que je disais, on fait de la gestion sur les tortues marines. Donc là, j'en ai une par exemple qui vient pondre. Ça c'était en pleine journée, c'est très rare, hein. Normalement c'est plutôt le soir, enfin, la nuit, qu'elle vient pondre ses œufs. Donc elle vient, comme ça nous ce qu'on fait, en fait on regarde les traces et on peut voir où sont les nids. Donc là la tortue elle est venue comme ça, elle a pondu ses œufs ici. Et après, elle avance un peu et elle a rebouché son nid. Donc en fait, les œufs sont pas là, ils sont là. Voilà. Et après, elle retourne à la mer. Et avec les traces des tortues, on peut savoir quelle espèce c'est. Donc c'est pour ça que dans cette île en particulier, on a trouvé aussi des tortues vertes. On était très contents parce que c'est la première fois. Donc là, en ce moment, comme l'eau est très froide, on a beaucoup de problème. On retrouve beaucoup de tortues avec tous ces barnacles dessus. C'est parce que les tortues donc, doivent se faire nettoyer la carapace. En fait, elles vont dans ce qu'on appelle des cleaning stations où elles se font nettoyer par des poissons. Et comme l'eau est très froide en ce moment, elles sont frigorifiées et elles peuvent pas bouger. Donc du coup, elles peuvent pas aller sur toutes ces stations de nettoyage. Et elles ont des algues qui viennent et après des barnacles comme ça qui restent accrochées, qui vivent sur elles. Mais plus il y en a, et plus la carapace va être très lourde. Et du coup, les tortues, vous savez, aussi ont besoin de revenir à la surface pour respirer. Donc, à cause de tout ça, elles peuvent couler et elles vont mourir. Donc, à chaque fois qu'on en voit beaucoup en ce moment, on les reprend et on les amène dans un centre de réhabilitation des tortues. Donc, si jamais vous en voyez sur les côtes, vous contactez vos professeurs et ils nous contacteront, on ira la chercher, on pourra l'amener à ce centre de réhabilitation. Ou après elles sont traitées et puis après elles sont relâchées. Là c'est pour vous donner une idée de toute la zone qu'on trouve. Donc là dans tout, on est ici. On a eu l'année dernière et cette année un contrat en fait où on fait la gestion des tortues. Sur 17 îles, donc ici, 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 Boutina, vous en avez peut-être entendu parler, qui est une réserve protégée. Là, donc jusqu'à la frontière avec l'extrême ouest d'Abu Dhabi, on trouve toutes ces îles. Donc c'est beaucoup de boulot, en bateau, on va là partout. Là, les cormorans, par exemple, dont je vous parlais, ils sont ici. Là, c'est les nids qu'on a trouvés en 2010, l'année dernière. Tous les nids de tortues, donc il y en a vraiment beaucoup qui sont venus pondre leurs œufs, là. Donc, là, c'est Translocation Site. Ici, c'est à la réserve. Parce que parfois, les tortues pondent beaucoup trop près de l'eau, en fait. Et les nids peuvent être inondés par la marée haute. Donc, malheureusement, parfois, on est obligé de transplanter les nids un peu plus loin, en fait. Pour pas qu'ils soient inondés. Comme c'est une espèce menacée, en fait, on fait tout pour réduire les impacts. Voilà. Donc après, quand il y a les bébés, on les aide à aller dans l'eau, au moins comme ça, ils ne sont pas menacés par tous les oiseaux qui viennent manger les petites tortues. Ça, c'est juste un exemple aussi d'une île où on a enregistré plus de 300 nids de tortues tout autour de l'île. Là encore, il n'y a pas tout ça. Maintenant, on a la dernière carte. Il y a des nids partout. Donc celle-là aussi, on va essayer de faire que cette île soit protégée, parce que là, c'est sûr, ils ne peuvent pas faire de développement, sinon on va perdre toute cette population. On a aussi participé pour taguer des tortues avec un satellite. Voilà, donc là, ça nous donne beaucoup d'informations. Donc, c'est un peu brouillon, mais par exemple, bon là, il y en a une, on a vu, elle a traversé déjà jusqu'à maintenant presque 7000 km. Donc elle est partie d'ici, elle est remontée et elle est redescendue. Et finalement, là, on voit qu'elles sont beaucoup ici. Donc c'est un endroit où elles se nourrissent. Donc après, ça nous permet de faire des actions, de dire, là, cet endroit, il faut qu'il soit protégé. Ça, c'est une tortue qu'on a taguée ici, qu'on a appelée Miss IMG, à la réserve. Donc elle est partie d'ici. Elle a fait tout ça. Elle est montée jusqu'à Ras Al Rima. Et après, elle est un peu redescendue. Et voilà, donc là, on voit qu'elle reste beaucoup, beaucoup ici. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut faire des actions. Là. Vous la voyez, là, Miss Amy avec son satellite. Et ça, on peut surveiller sur un site internet. On peut voir tous les jours où est-ce qu'est la tortue. Là, c'est juste pour montrer un exemple. Sur la même île, il y avait toutes ces tortues. On fait une étude sur les coraux. Donc on a trouvé 37 espèces de coraux, donc il y en a énormément dans cette île. Et encore plus, il faut la protéger. On a trouvé même des espèces qui n'avaient pas été enregistrées avant pour le vol. Il y a énormément de poissons. Vous voyez tous ces petits poissons qui vivent dans les coraux pour se protéger. Voilà quelques photos pour voir notre travail avec des transects, on prend des photos, on fait des vidéos. Ça, Medjuralie a dû vous en parler. Donc, comme cet endroit allait être détruit avec les constructions, ce qu'on a fait, on a pris des coraux ici, on en a transplanté ici et aussi ici, sur la digue, la breakwater de Jebel Ali. Parce qu'on avait ce problème avec tous les travaux, toute la sédimentation qui vient sur les coraux, ça les empêche d'avoir de la lumière et ça les étouffe, donc ils meurent. Donc en les transplantant comme ça, on les sauve, on permet à la population de continuer à vivre. Donc là, c'était quelques images sur le travail, on a pris les coraux. Ça s'appelle, c'est comme de la pâte en fait, qui permet de fixer les coraux sur les rochers. On les mixe sous l'eau, c'est facile, c'est marrant. Et après, donc là on a tous ces rochers avec tous les coraux, et on a eu des très très bons résultats. Donc en 2008, par exemple, on a transplanté 11 000 coraux, et 95% ont survécu, et là se reproduisent et grandissent. Donc c'est ce qu'on fait tous les 6 mois, on va voir et on mesure comment ils grandissent. Voilà, ça c'est des petites tortues qui retombent à la mer. Voilà, vous avez un aperçu de tout le travail qu'on fait.